Merci d'écouter RFI. 9h à Port-au-Prince et à Washington. Il est 13h en temps universel. Dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain. On va revenir sur cette décision du président américain Donald Trump. Supprime le ministère de l'Éducation. La décision doit encore être validée par le Congrès, mais déjà beaucoup s'inquiètent de ses conséquences. Notre dossier du jour consacré aux menaces qui pèsent contre les journalistes en Haïti après des attaques de gangs contre les locaux de plusieurs radios. Et puis l'actualité des Outre-mer françaises, comme chaque jour. Oda Naji Ali, on parlera avec vous de la lutte contre le VIH. Puisque c'est le site d'action ce week-end, le VIH qui continue de circuler en Outre-mer.
Oui, particulièrement en Guyane et aux Antilles, où l'on recense beaucoup plus de nouvelles contaminations dans l'Hexagone. Vous l'avez dit, on en parle donc à l'occasion du site d'action qui débute aujourd'hui.
À tout à l'heure. Et tout de suite, le journal, l'essentiel de l'actualité internationale. Bonjour Diane Berger.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et tous.
Volodymyr Zelensky annonce que plus de 200 bombes et drones russes ont fondu sur l'Ukraine la nuit dernière.
Le président ukrainien appelle ses alliés à maintenir la pression sur Moscou à quelques jours de pourparlers prévus sous l'égide des États-Unis. Dans ce contexte de bouleversements géopolitiques internationaux, une question s'est invitée hier au Conseil européen à Bruxelles. L'Europe va-t-elle s'endetter de manière collective, comme au du Covid, mais cette fois-ci pour assurer sa défense. Nicolas Feldman, l'idée d'un grand emprunt fait son retour.
Avec dans le camp des pour, les États en première ligne face à la Russie comme la Pologne, les pays baltes traditionnellement classés dans la catégorie des États frugaux s'y sont convertis. L'Italie, l'Espagne, la France sont aussi pour cet emprunt commun. Emmanuel Macron l'a redit hier à l'issue du Conseil européen.
Moi je suis convaincu que à la fois pour commencer à rembourser les tombées du pré-Covid, et pour pouvoir faire face aux dépenses qui sont les nôtres en matière d'intelligence artificielle, de défense et de climat, où en fait nous avons le mur d'investissement sur la décennie qui vient. Donc on devra à nouveau faire un emprunt commun. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout consensuel.
Pas de consensus, car c'est un non catégorique pour les Pays-Bas. La soutenabilité de la dette, la santé financière sont en jeu, fait valoir le Premier ministre néerlandais. D'autant plus, autre argument, que les Européens sont encore loin d'avoir remboursé le prêt de 800 milliards d'euros contracté pendant le Covid. La clé de cet emprunt se trouve peut-être désormais à Berlin. Paris espère convertir le futur chancelier allemand à cette idée, lui qui, il y a encore quelques jours, s'est dit favorable au quoi qu'il en coûte pour assurer la défense du continent. Nicolas Feldman, Bruxelles. RFI.
La Cour suprême israélienne suspend le limogeage de Ronen Bar, le chef du Shin Bet, l'agence de la sécurité intérieure. Un gel de la procédure, le temps d'examiner les recours déposés aujourd'hui, vendredi, par l'opposition et par une organisation de la société civile. Dans le même temps, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, ordonne à son armée de saisir davantage de territoires palestiniens à Gaza en vue de l'annexer si le Hamas ne libère pas les otages. Une proposition malgré les récentes critiques du président israélien Isaac Herzog, qui a fait savoir hier soir son inquiétude face à la reprise des frappes à Gaza et la situation en Cisjordanie. La Cisjordanie, en effet, prise en étau entre les colons d'un côté et l'opération Mur de Fer lancée en janvier par l'armée israélienne. Dans ce contexte, à Naplouse, les chrétiens des territoires palestiniens vivent un temps de carême mouvementé, c'est peu de le dire. Amira Souilem est allée à leur rencontre.
En ce deuxième dimanche de carême, Taoufir Septuagénaire est venu chercher un peu de paix en l'église Saint-Jean-le-Baptiste.
La seule ville de Cisjordanie dans laquelle il y a à la fois des chrétiens, des musulmans et des samaritains, c'est Naplouse. On vit ensemble normalement. Notre messe à nous a lieu le dimanche après-midi. D'habitude, elle a lieu le matin, mais notre prêtre officie dans l'église de Ramallah le matin. Il vient donc ici l'après-midi.
Avec l'opération Mur de Fer qui se poursuit et qui s'accompagne de la multiplication des checkpoints, le père Aïssa Abou Sarad se demande s'il va pouvoir encore longtemps faire les allers-retours.
Dernièrement, j'ai quitté Naplouse à 13h un lundi en direction de Ramallah. J'y suis arrivé à 4h du matin le mardi, 15h au checkpoint. Ça a été très difficile. Il y avait des malades, des gens qui avaient besoin de prendre des médicaments, de boire. Ces checkpoints, c'est une façon de faire pression sur nous, pour nous pousser à quitter notre pays et à nous détacher de la cause palestinienne.
Des inquiétudes renforcées par les accrochages violents qui se multiplient avec les colons israéliens, alors que la région de Naplouse, qui abrite la tombe présumée du prophète Joseph, suscite de plus en plus leur intérêt. Amira Suilem, de retour de Naplouse, RFI.
La bataille n'est pas terminée autour du palais présidentiel de Khartoum au Soudan.
C'est ce qu'affirment en tout cas les paramilitaires des forces de soutien rapide quelques heures après la reprise du site par l'armée soudanaise. Les paramilitaires ont contre-attaqué avec une frappe de drone. 3 journalistes ont été tués. Le palais présidentiel qui était, on le rappelle, aux mains des FSR depuis le début du conflit il y a quasiment 2 ans. Une macabre découverte liée au gang émeut le Mexique. Dans l'état de Jalisco, une association de recherche de disparus a retrouvé une fosse clandestine dans un ranch présenté comme le centre d'entraînement, voire le centre d'extermination d'un cartel. Dans la terre, des ossements et plus d'un millier d'objets personnels comme des chaussures ou des vêtements. Dans un pays malheureusement habitué aux faits divers de ce type, l'affaire suscite ici une vive émotion, notamment en raison des débuts chaotiques de l'enquête par la police locale. Gwendolina Duval, l'affaire passe maintenant aux mains de l'État fédéral.
Dans sa toute première conférence de presse depuis le début de son mandat, Alejandro Gertz Manero, le procureur général de la République, a fait le point sur les éléments à sa disposition. Il pointe de nombreux manquements de la part des autorités locales. Le ranch avait fait l'objet d'une opération de sécurité en septembre 2024, durant laquelle 10 personnes ont été arrêtées. Mais jusque-là, le lieu n'avait jamais été fouillé, ni même sécurisé. Ces défaillances dans les enquêtes sont communes au Mexique et font vivre un véritable parcours du combattant aux victimes et à leurs familles pour obtenir la vérité et la justice. Face aux critiques, ces derniers jours, la police du Jalisco a donc ouvert en ligne un inventaire des affaires personnelles récemment retrouvées pour inviter les personnes qui les reconnaîtraient à se manifester. Pour faire preuve de transparence, les autorités ont aussi ouvert la scène de crime au collectif de recherche de disparus qui dénonce régulièrement les faiblesses de la médecine légale et des processus d'identification des corps. Alors que le pays compte plus de 120 000 disparus, le gouvernement mexicain a déclaré que la recherche et l'identification des victimes seraient une priorité. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Les perturbations vont vraisemblablement durer plusieurs jours à l'aéroport d'Iflo, au Royaume-Uni, le plus fréquenté d'Europe. Le site complètement fermé ce vendredi après une panne électrique liée à un incendie. Selon la police, il n'y a à ce stade pas de signe qu'il s'agisse d'un acte intentionnel. Plusieurs centaines de vols ont dû être annulés ou redirigés vers d'autres aéroports européens.
En France, le Conseil constitutionnel retoque une grande partie de la loi d'orientation agricole.
Le texte censé répondre aux inquiétudes des agriculteurs français, adopté dans la précipitation juste avant le salon de l'agriculture, une réforme critiquée par les défenseurs de l'environnement, et près d'un tiers du contenu du texte a donc été jugé contraire à la Constitution, ce qui réjouit la responsable plaidoyer de France Nature Environnement, Morgane Piederrière.
On est globalement heureux que le Conseil constitutionnel il ait remis un petit peu d'ordre dans ce qui était devenu une foire aux demandes parfois saugrenues et souvent très mal rédigées du lobby agricole. Il y avait beaucoup de dispositions qui avaient été votées par pure démagogie, qui n'étaient pas réellement applicables. Le point le plus important pour nous, c'est la question de l'autorisation qui était posée de détruire des espèces protégées. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui sont en effet en difficulté, et de leur dire qu'on va régler leurs difficultés en leur permettant de détruire des espèces protégées, pour nous, ça n'a vraiment aucun sens. C'est pas répondre réellement aux besoins des agriculteurs. Donc pour nous, c'était réellement problématique. On appelle vraiment à la responsabilité des dirigeants et des dirigeantes dans les semaines à venir, parce qu'il y a une autre proposition de loi sur l'agriculture qui sera bientôt votée au Parlement. Il y a beaucoup de régressions à l'intérieur, elle réautorise notamment les néonicotinoïdes. Et donc on espère vraiment que cette décision du Conseil constitutionnel va amener le législateur à réfléchir, à trouver des vraies solutions qui favorisent le dialogue et la pédagogie, plutôt que à céder comme ça à des demandes qui ne créent que de la confusion et qui vont créer plus de conflits sur le terrain.
Il est maintenant 13h09 en temps universel. La suite de RFI Midi, c'est avec vous Anne Cantner.
Merci Diane Berger. Nous sommes sur le continent américain pendant les 20 prochaines minutes et on prend d'abord la direction des États-Unis.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Il manque encore l'accord du Congrès, mais le projet avance, vient de passer une étape majeure. Donald Trump a signé le décret entérinant la fin du ministère de l'Éducation. La presse y revient largement et on va en parler avec vous, Achim Lippold. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Cette décision, elle réjouit bien sûr les groupes conservateurs, comme l'organisation se présentant comme familiale, Moms for Liberty.
Exactement. La cofondatrice Tina Descovich ne cache pas sa satisfaction. Dans une interview accordée à USA Today, elle milite depuis des années pour des politiques éducatives conservatrices et pour le bon scolaire. En fait, c'est une aide qui permet aux parents américains d'envoyer leurs enfants dans une école privée, souvent une école religieuse. Mais surtout, explique-t-elle, elle souhaite que le gouvernement fédéral se retire du système éducatif, ce qui est en train de se concrétiser. Alors pour les opposants à ce démantèlement du ministère de l'Éducation, eh bien, c'est l'incertitude, écrit USA Today, incertitude quant aux conséquences immédiates et à long terme des coûts budgétaires. Les parents et organisations progressistes affirment que les écoles publiques ont besoin de tout le soutien possible. Ils estiment aussi que toute réduction du personnel du ministère ou des ressources allouées aux écoles nuira aux élèves.
Si le décret est validé par le Congrès, l'éducation relèvera exclusivement de la compétence des États. C'est déjà le cas en grande partie. En fait, les subventions fédérales, elles jouent surtout un rôle pour les écoles qui sont situées dans des zones défavorisées économiquement ou socialement, et puis pour les élèves ayant des troubles de l'apprentissage. Et même si la loi prévoit une très grande marge de manœuvre pour les États, Laurie Bureau, maîtresse de conférence en civilisation des États-Unis, rappelle qu'il va manquer désormais un contrôle, des garanties d'égalité et d'équité.
Dans la Constitution, l'idée que l'éducation ne relève pas du fédéral et que l'État fédéral a fait dans l'ingérence jusqu'à maintenant, d'un point de vue conservateur, c'est un juste retour à ce qui devrait être. Mais évidemment, ça suscite énormément d'inquiétudes sur place, puisque voilà, dans les cas où un État aurait des directives qui seraient discriminatoires notamment, on perd là l'espèce de gendarme, si vous voulez, qui s'assurait qu'il n'y avait pas de dérapage. Quand on pense diversité, équité, inclusion aux États-Unis, on pense tout de suite aux politiques raciales, mais ça peut être des questions d'accessibilité aux bâtiments, de s'assurer qu'il y a possibilité pour un élève en fauteuil roulant d'accéder à un établissement public dans un périmètre raisonnable. Donc ça ne se limite pas aux questions de diversité raciale.
Laurie Bureau, maîtresse de conférence en civilisation des États-Unis. 2 mois après son arrivée au pouvoir, Donald Trump bouleverse aussi l'enseignement supérieur. Ça ne concerne pas seulement le ministère de l'Éducation dont on parlait à l'instant, puisque face aux menaces de coupes budgétaires, les universités, Achim Leopold, se plient aux exigences de la nouvelle administration.
Et oui, c'est allié dans Politico qui ont fait sa une sur ce sujet. Les universités à travers le pays cèdent à la pression du président Donald Trump à une vitesse stupéfiante, écrit le site d'information. Elles réduisent les politiques progressistes et répriment le militantisme des étudiants face aux menaces croissantes d'une administration déterminée à réformer l'enseignement supérieur. Exemple, l'université de Columbia, New York, qui semblait prête jeudi hier à se plier à une série d'exigences de l'administration Trump, des fondamentaux de sa mission, mais qui sont nécessaires pour conserver les 400 millions de dollars de subventions fédérales gelées par le gouvernement. Toujours selon Politico, le mois dernier, des dizaines d'universités se sont empressées d'effacer de leur site internet leur politique de diversité, d'équité et d'inclusion et d'annuler des événements liés à ces thématiques.
Autre sujet à la une de la presse américaine, c'est l'affrontement entre Donald Trump et la justice.
Exactement. Dans son éditorial, Anne, The Washington Post revient sur l'affaire dont on a beaucoup parlé ici à cette antenne, des expulsions de plus de 200 Vénézuéliens présentés comme des membres de gangs vers le Salvador. Une expulsion justifiée par une vieille loi de guerre qui est contestée par la justice. Cette loi de 1798 ne s'applique qu'en temps de guerre, ce qui n'est pas le cas avec le Venezuela. De plus, selon le Washington Post, Donald Trump a signé son décret en secret, attendant le départ des avions avec les détenus à bord pour le rendre public. Le juge qui a contesté ces décisions est désormais menacé de destitution, ce qui, selon le quotidien, affaiblit la crédibilité du pouvoir judiciaire et encourage les partisans de Donald Trump à défier ouvertement les décisions de justice. Pour le Washington Post, cette affaire rappelle le risque d'un pouvoir exécutif sans contrôle, à l'image justement du Salvador, où le président Nayib Bukele a réduit les libertés sous prétexte de lutter contre le crime organisé. Certains conservateurs américains, y compris les conseillers de Donald Trump, saluent cette approche autoritaire. Pourtant, les États-Unis ont toujours défendu les principes démocratiques, écrit le Washington Post, et ils devraient continuer à protéger la séparation des pouvoirs face aux dérives autoritaires.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
En Haïti, Achim, la lutte contre les gangs se modernise.
Oui, c'est à lire sur le site de Alter Press. Les forces de l'ordre haïtiennes, vont explorer de nouvelles stratégies comme l'utilisation de drones pour renforcer leur capacité d'intervention. Une initiative discutée lors d'une réunion sur la sécurité hier entre le Conseil présidentiel de transition, la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti et la mission multinationale d'appui à la sécurité. Cependant, souligne le site Alter Press, malgré ses efforts et près d'un an après l'installation du CPT, la population haïtienne reste confrontée à la violence des gangs qui continuent de s'aimer la terreur à travers assassinats, enlèvements, destruction de biens publics et privés. Des milliers de personnes sont toujours déplacées, rappelle Alter Press, et les résultats attendus en matière de sécurité tardent à se concrétiser, ce qui nourrit un profond désenchantement au sein de la société haïtienne.
Revue de presse signée Achim Lippold. Cela fait 2 mois maintenant que les attaques sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus violentes dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les gangs visent les quelques quartiers qu'ils ne contrôlent pas encore et ils s'en prennent aussi à la presse. Marine de la Moissonnière, ces derniers jours, 3 médias ont été attaqués.
Les locaux de la radio-télévision Caraïbe, situés à la rue Chavanne, ont été incendiés par les bandits armés.
Le 13 mars dernier, l'attaque dont a été victime Radio-télévision Caraïbe pendant la nuit est à la une des médias haïtiens. Les locaux historiques étaient vides depuis plus d'un an par mesure de sécurité. Les équipes s'étaient installées dans une zone plus calme, mais le bâtiment contenait encore des équipements. Et surtout, c'est une institution, l'un des plus vieux médias haïtiens et l'un des plus suivis, qui a été pris pour cible quand il découvre les images de l'incendie sur Internet. Michel Joseph, co-directeur de la salle des nouvelles de Radio-Télévision Caraïbe, est secoué.
C'était un mélange de colère, de tristesse et d'impuissance. Colère parce que c'est une attaque directe contre notre mission de tenir le public informé dans un contexte où l'accès à l'information est vital. Tristesse parce que ce bâtiment chargé d'histoire représente des décennies de travail acharné et de dévouement pour la vérité. Et enfin, je peux parler d'un sentiment d'impuissance face à la violence croissante qui semble ne pas épargner même ceux qui se battent pour donner une voix aux sans-voix aujourd'hui en Haïti.
La même nuit, les gangs ont aussi incendié la radio Mélodie FM. 3 jours plus tard, c'est Télépluriel qui est saccagé. Même les toilettes sont détruites. Pour Michel Joseph, les gangs savent très bien ce qu'ils font.
Attaquer les médias et attaquer Radio-Télévision Caraïbe notamment, qui est un média très puissant, c'est envoyer un message très fort. Si on réduit les journalistes au silence, la population n'aura pas accès à l'information et les bandits pourront établir leur loi comme bon leur semble. Donc 3 médias en une semaine, ça fait montre vraiment de la montée de la puissance des gangs ces dernières semaines en Haïti.
Caraïbes FM, nous c'est roseau, nous plier, mais nous pas jamais casser.
Radio-télévision Caraïbes qui, comme un roseau, plie, mais ne casse pas, c'est ce que dit ce journaliste.
Oui, pas question de baisser les bras après ces attaques, insiste Michel Joseph, des attaques qui ont suscité de très nombreuses condamnations.
Il y a une conscience collective quand même de l'importance d'une presse libre et indépendante dans notre société. Pour moi, ces messages de soutien renforce notre détermination à continuer à exercer notre métier, même dans des conditions aussi difficiles. Non, on ne peut pas arrêter parce qu'aujourd'hui, la presse reste le dernier rempart de la démocratie. Oui, certaines fois, on est au bord du découragement. On n'a pas le droit d'abandonner.
Radio-Télévision Caraïbes a pris des mesures pour protéger encore plus ses journalistes, mais c'est au gouvernement d'agir.
Nous avons entendu des déclarations de condamnation de l'attaque. Mais les mots, aujourd'hui, ne suffisent plus. Nous, à Radio-Télévision Caraïbes, nous croyons qu'il est urgent que des actions concrètes soient mises en place pour protéger, pas que les journalistes et les médias, mais pour protéger la population et pour ramener la sécurité dans le pays.
Toutes ces attaques n'ont fait que des dégâts matériels, mais en décembre dernier, alors qu'ils couvraient la réouverture d'un hôpital, 2 journalistes haïtiens ont perdu la vie sous les balles des gangs. 7 autres ont été blessés.
Notre dossier du jour, signé Marine de la Moissonnière.
RFI, la radio del mundo.
Direction l'Argentine à présent, où une famille de Français fait revivre l'Aéropostale, une ligne aérienne légendaire pour distribuer le courrier en reliant, il y a une centaine d'années, l'Europe à l'Amérique latine grâce au génie des pionniers de l'aviation de l'époque. La famille ne voyage pas en avion, mais en voiture, dans une vieille 2 chevaux, 23 000 km, 5 pays et une escale, notamment à Buenos Aires, ce qui a permis à notre correspondant Théo Conscience de rencontrer ses aventuriers.
Avec son liseré bleu-blanc-rouge façon courrier par avion et ses citations de Mermoz et Saint-Exupéry sur les flancs, l'aérodeuche ne passe pas inaperçu dans les rues de Buenos Aires.
On a un atout phare dans notre voyage, qui est l'énorme capitale sympathie de la 2 chevaux.
Alexis Malou est l'un des pilotes du raid aéropostal. 20 000 km en famille à travers l'Amérique du Sud sur les traces des pionniers de l'aéropostal, la ligne aérienne mythique qui reliait Toulouse à Santiago du Chili en passant par Dakar.
La première étape pour nous au nord, c'était Natal, puisque Natal, c'était la tête de pont de la traversée transatlantique pour le courrier, il y a un siècle. Et ensuite, on a aussi eu Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, Santos pour le Brésil.
Ajoutez-y Montevideo pour l'Uruguay et à son arrivée à Buenos Aires, à mi-parcours, l'Aerodeutsch a déjà 10 000 km dans les roues. Pour l'instant, elle tient le coup.
On était censé voyager léger, mais en fait, on a 40 kilos de pièces détachées et d'outils dans le coffre. Le plus dur, ça restera quand même la Cordillère des Andes, avec le sujet de l'altitude. Jusqu'à quelle altitude le moteur pourra avoir suffisamment d'air et d'oxygène pour ne pas s'étouffer à 3000 ou 4000 mètres d'altitude? Finalement, on va le savoir sur le terrain.
Traverser la Cordillère, éviter les avaries, les problématiques sont presque les mêmes que celles des pilotes il y a 100 ans. Pour la famille Malou, l'arrivée à Santiago du Chili est prévue pour le 2 avril, dernière étape de la ligne et d'un voyage commencé en réalité il y a plus de 15 ans.
Dakar-Toulouse, c'est 2009.
Avant le tronçon sud-américain, l'épopée a commencé au Sénégal, retrace Thierry, le père de la famille Malou.
Il y a cette idée un peu folle de partir de Dakar, quand les enfants ont dit « Papa, tu nous promets de remonter à deux chevaux ?» Très bien. Qu'est-ce qu'on donne comme sens à ce voyage? Et à ce moment-là, les enfants avaient lu Le Petit Prince, et puis ils étaient en train de lire la biographie de Mermoz par Kessel, qui décrivait bien cette épopée dans le Sahara, entre Toulouse et Dakar, et on s'est dit, en avant, et on part sur cette étape en y mettant justement un objectif de recueil de tout ce qu'on pouvait voir, des escales de Compostelle entre Dakar et Toulouse.
À chaque étape, la famille alimente un blog, et le voyage est aussi un peu un pèlerinage, explique Com, l'un des quatre frères Malou.
L'avion se posait là, l'hangar était ici, on va reconnaître un peu qui étaient les gens. Toutes ces villes qu'on rejoint, ont tous été des villes étapes des lignes d'aéropostale. Et à chaque fois, dans chacune de ces villes, plus ou moins bien conservées, on trouve encore des vestiges.
Ici, un ancien aérodrome, là l'avion avec lequel Jean Mermoz s'est écrasé dans les Andes. Et à Buenos Aires, l'appartement d'Antoine de Saint-Exupéry, situé au 6e étage des luxueuses galeries Güemes. On y trouve des lettres manuscrites de l'aviateur, le bureau sur lequel il aurait écrit son roman Vol de nuit, et surtout quelques-unes des 600 traductions du Petit Prince, le chef-d'œuvre de Saint-Exupéry, qui aurait lui aussi été inspiré par l'Argentine, explique Alexis Malou.
L'image du Petit Prince, on dit qu'elle aurait été inspirée par cette petite fille blonde qui a surgi lors d'un atterrissage forcé au nord de l'Argentine. Une petite fille qui était très espiègle, malicieuse, et c'est un des traits de caractère qu'on retrouve dans le Petit Prince.
Et à travers le Petit Prince, Saint-Exupéry et l'héritage de l'aéropostale, ce voyage a aussi pour objectif de resserrer les liens entre les villes de la ligne. À chaque étape, la famille Malou remet aux autorités locales une lettre du maire de Toulouse. Et ça marche. Après leur passage à Natal, les autorités de la ville brésilienne ont formulé une demande de jumelage avec celle de Toulouse. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Il est 13h23 en temps universel.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Odane Agi-Ali, la Guyane reste le département français le plus touché par le VIH.
4000 personnes vivraient avec la maladie sur le territoire. La situation épidémique reste préoccupante en Outre-mer selon le dernier bilan de Santé publique France. Bilan sur lequel s'est penchée Emma Giaconelli à l'occasion de l'édition 2025 du SIDAction.
La circulation du VIH en Outre-mer reste beaucoup plus active que dans l'Hexagone. Les régions les plus touchées sont la Guyane, largement en tête, les Antilles et Mayotte. Seule la Réunion compte des taux de contamination similaires à ceux de l'Hexagone. Au total, entre 415 et 450 nouveaux cas ont été déclarés en 2023, tous départements et régions d'Outre-mer confondus. Avec d'importants taux de contamination, les Outre-mer sont aussi les régions où l'on dépiste le plus et où le dépistage est le plus efficace, en moyenne deux fois plus que dans l'Hexagone. Pour 100 prises de sang réalisées en France hexagonale, ce sont par exemple 205 personnes qui seront dépistées en Martinique et 261 en Guyane. Depuis 10 ans, les taux de découverte du VIH ne cessent de diminuer. Preuve, entre autres, que le dépistage et la prévention portent leurs fruits.
Les précisions d'Emma Giaconelli. Et on en vient à ce phénomène étrange observé aux Anses d'Arlet. C'est au sud-ouest de la Martinique. Des bulles de gaz dans la mer. Un phénomène très inhabituel, mais sans danger, selon les scientifiques. Le reportage Martinique la première de Christine Cupit.
Il y a 2 ans de cela, ça m'était arrivé, je vois, bon, les bulles étaient petites, elles n'étaient pas aussi grosses.
Hugues Coco est marin-pêcheur aux Anses d'Arlet. Récemment, il a observé un phénomène plutôt exceptionnel lorsqu'il était en mer. Des bulles de gaz remontant à la surface de l'eau. Plusieurs personnes les ont vues, particulièrement à l'Anse du Four et à l'Anse Noire.
Elles ont l'air d'être plus puissantes, puisqu'en fait, on pensait que ce sont des gens qui faisaient la plongée sous-marine. C'est inquiétant. On ne sait pas demain si ce sont des petits volcans sous-marins et puis que les espèces sont menacées. Parce que je discutais avec un collègue qui me disait qu'il avait des casiers dans cette zone. Il pêche moins.
Selon les scientifiques, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il existe des sources chaudes aux Anses d'Arlet et il arrive qu'elles émettent des bulles de gaz, parfois de manière plus intense, comme en ce moment. Ces bulles de gaz sont d'origine magmatique, mais elles n'ont rien à voir avec la montagne Pelée. Anne-Marie Lejeune, maître de conférences, volcanologue à Sorbonne Université.
Il s'agit de gaz d'origine magmatique profonde. Ces sources ne sont pas liées à la montagne Pelée. Les petites Antilles, en fait, l'arc volcanique, c'est un arc qui est actif. Il y a production de magma en profondeur tout le long de la zone de subduction, donc ça se produit vers les 150 km de profondeur.
Afin de poursuivre leurs recherches sur les bulles de gaz, les scientifiques de l'Observatoire volcanologique et sismologique comptent également sur les observations des riverains et des professionnels de la mer.
Le reportage de Christine Cupit. Très bonne journée.
Merci Odana Jiali. Bonne journée. On va se quitter avec un peu de musique. Avec le titre Subiru d'Oistiosine de Rap Reggae Party Criollo et Cynthia Luz, c'est à écouter en ce moment dans la playlist RFI.
Subir os dois tiozinhos, bagulho é só tá de rachar. Vários de campan que nada de campim. Mas quem quer preta, mas quem quer branca? Todo azul e quer rejuntinho. Em pleno domingo, fango macalã. Se nega, cê é ban, fica de só.
Princesa, que patrão, aqui é lei do cão. Quem sorri pra ti, quer ver tu cair.
Reggae Party, Criollo et Cynthia Luz. Et c'est ainsi que se termine RFI Midi pour aujourd'hui. L'émission était réalisée ce vendredi par Vincent Biteau. On se retrouve lundi, 11h30, temps universel. Et dans une minute, vous avez rendez-vous avec Catherine Fruchon-Toussaint pour son émission Littérature sans frontières. Très bonne journée à tous.
RFI Midi.
Ça ressemble quand des chercheurs trouvent. À moi, grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie, une santé plus fragile, des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org.
Un jour au village, Penaï Traoré.
Que faire du bois d'EVEA une fois que les plantations arrivent en fin de cycle? En Côte d'Ivoire, un programme de recyclage a été initié pour transformer le bois d'EVEA en bois d'œuvre et en bois d'énergie, ce qui garantit des revenus additionnels pour certains producteurs.
Un jour au village, avec Penaï Traoré, tous les samedis à 13h10 TU sur RFI.